France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Une décision sera prise d'ici la fin du week-end. Voici la promesse de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et du Premier ministre britannique, Boris Johnson. Les deux responsables politiques ont discuté post-Brexit hier soir pendant plus de 3 heures, sans parvenir à trouver une position commune sur les derniers désaccords commerciaux entre Bruxelles et Londres. Ultime négociation donc, ces 4 prochains jours avant dimanche. Aujourd'hui, par ailleurs, à Bruxelles, s'ouvre un sommet européen qui pourrait faire avancer les 27 sur le financement du plan de relance lié à la crise du Covid-19, crise économique. Hier soir, la Hongrie et la Pologne se sont finalement dites prêtes à lever leur veto. Les États-Unis, toujours submergés par la deuxième vague de Covid-19, les derniers chiffres frôlent les records sanitaires enregistrés par les autorités de santé avec plus de 3000 décès en moins de 24 heures et plus de 200 000 nouvelles contaminations. Elle travaille sur les vaccins pour lutter contre ce Covid-19. L'Agence européenne du médicament a été victime d'une cyberattaque. Dans un communiqué, l'AEM indique que des documents sur le vaccin de Pfizer et BioNTech ont été piratés. Un point sur les mesures sanitaires en France. Il est attendu aujourd'hui à 18h avec un point presse du Premier ministre Jean Castex pour lever ou non une partie du confinement mardi prochain, le 15 décembre, avant les fêtes de Noël. Dilemme gouvernemental puisque le nombre de contaminations quotidiennes est toujours élevé. Il est en hausse d'ailleurs, 4500 cas ces dernières 24 heures. Mais le nombre de patients en réanimation à l'hôpital, en revanche, continue, lui, de baisser. Dans ce contexte, les pharmacies doivent se tenir prête aux nombreuses demandes de tests qui vont arriver dans une semaine. C'est l'avertissement de la Direction Générale de la Santé. Et puis terminons par cet accord national et interprofessionnel trouvé tard cette nuit entre certains partenaires sociaux sur la santé au travail. Le MEDEF a trouvé un terrain d'entente avec la CFDT, FO et la CFE-CGC. Un accord novateur, dit le patronat, qui aura comme colonne vertébrale la prévention. C'est la première fois depuis 13 ans qu'un accord interprofessionnel sur la santé au travail est signé.
Il y a presque 5 ans maintenant, le monde s'engageait pour le climat en signant un accord qu'on avait qualifié d'historique lors de la COP21. Nous allons tenter de dresser un bilan des avancées en la matière.
Culture Monde, Florian Delorme.
Depuis les États-Unis, toujours aussi accro au pétrole, à la Chine qui aspire à jouer un rôle central dans la diplomatie climatique, en passant par la Russie ou encore l'Union européenne qui a de grandes ambitions en la matière, nous allons tenter de mesurer les progrès réalisés et le chemin qu'il reste à parcourir pour essayer d'éviter la catastrophe climatique.
Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h sur France Culture et sur franceculture.fr.
À table, une histoire des cuisines du monde, car la manière de préparer les plats a une histoire, au moins celle de leur diffusion.
L'histoire s'écrit chaque matin sur France Culture, Xavier Mauduit.
Alors lundi, c'est ravioli, chinois, mardi, c'est spaghetti, antique, le mercredi, c'est sushi, une tranche d'histoire, et le jeudi, c'est méchoui et couscous aussi.
Le cours de l'histoire, du lundi au vendredi à 9h05 sur France Culture et sur franceculture.fr. Et sur France Culture à 6h03, c'est l'heure de retrouver Bruno David et sa chronique Le Monde Vivant. Ce matin, c'est le crapaud qui est à l'honneur.
Non, non et non. Le crapaud n'est pas le mâle de la grenouille. C'est une espèce, ou plutôt un groupe de plus de 500 espèces à part entière. Chez nous, le crapaud commun, buffo-buffo, est réputé laid. Il faut bien admettre qu'il n'est pas très beau. Selon la symbolique chrétienne, il est associé au vice et à la luxure. Si l'on veut contraster la beauté d'une âme avec la disgrâce de son enveloppe, on cache dans le crapaud un prince charmant. Si à l'inverse, on souhaite dénigrer des personnes, on les métamorphose en crapaud. Sa bave, lui-même, entrait dans la composition des filtres magiques, bénéfiques ou maléfiques. Cette assimilation culmine au XVIe et XVIIe siècle, où lors des agapes sabbatiques, les sorcières consommaient des crapauds après les avoir écorchés. Elle faisait bien, car la peau humide et tubéreuse des crapauds sécrète plus d'une centaine de composés bioactifs, notamment des cardiotoxiques, comme les buffotoxines ou des hallucinogènes. Ces molécules, que nos sorcières évitaient de consommer, ne sont dangereuses que pour les téméraires qui tentent de manger un crapaud. Sans le savoir, elle nous administre au passage une petite leçon d'évolution. Ce qui est néfaste pour un individu peut être bon pour la population. Si un carnivore affamé dévore un crapaud, celui-ci en mourra. Mais l'attaquant intoxiqué en sera tellement malade qu'il s'en souviendra et ne mangera pas un second crapaud. La population de crapauds s'en trouve protégée. C'est ainsi que de nombreuses espèces en sont venues à sécréter des substances désagréables, voire franchement toxiques. Au Moyen-Âge, le crapaud, animal nocturne, incarne le diable. En 1233, le pape Grégoire IX le précise dans une bulle émise contre les sorcières. En revanche, sur d'autres continents, les crapauds sont rationnellement associés à l'eau. Au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, en Chine, au Vietnam, il est le symbole de l'eau et commande la pluie. Si le crapaud a bien besoin d'eau pour se reproduire, comme la grande majorité des amphibiens, il peut s'en éloigner en se déplaçant lourdement. Il se nourrit d'insectes, de limaces, vers de terre, cloportes. Dépourvu de dents, il écrase ses proies avec ses yeux. Mais comment fait-il ? Ses yeux se referment, et les globes oculaires, normalement proéminents au-dessus de la tête, sont abaissés par contraction musculaire. Ils deviennent proéminents dans la cavité buccale, où ils contribuent à écraser la proie et à la pousser dans l'œsophage. Pour finir en beauté, le crapaud incarne une bataille de naturalistes du XVIIIe siècle. Buffon, intendant des jardins du roi à Paris, n'aimait pas le Suédois Linné, et il attaque frontalement la nomenclature linnéenne dans son Histoire naturelle. Il se dit que Linné aurait nommé le crapaud Buffo-Buffo en hommage perfide à Buffon. L'histoire est séduisante, mais il s'agit d'une légende. Buffo désignait déjà le crapaud en latin, bien avant que Linné ne se mette à nommer les espèces. La bave maléfique du crapaud n'a donc pas atteint Buffon.
Matière grise et café noir, 6h, 7h, les petits matins de France Culture.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Réveil culturel. Comme tous les jeudis, on se réveille en musique. Et aujourd'hui, avec Christine Salem, la reine du Maloya. Le Maloya, c'est bien sûr le blues de la Réunion, le chant rebelle et longtemps interdit d'ailleurs des Noirs, des esclaves de l'île de la Réunion. Christine Salem reprend bien sûr le Maloya dans son dernier album qui vient de sortir, Merci, mais elle l'ouvre à d'autres horizons musicaux. Et c'est un très très beau disque. Cette émission a été préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin la prise de son Jean Guilamège.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Les percussions sont de Jackie Malbrook et de Anne-Laure Bourget qui accompagnent Christine Salem dans cet album très très musical. Mais il y a surtout un instrument qui est vraiment très présent et très beau dans ce disque, c'est le violon de Frédéric Norel.
Et elle est là, ma belle gue, la sola me maliwa. Et elle est là, angolano, la sola mambo yalla. Ingela est là, liwa mambo, la sola me malie. Et elle est là, angolano, la sola mambo yalla.
Hey, yeah. jawa Inchawa la hela angola no Lazo mambeli wa Ungo la hela ni wamabo Lazo la me maliye Eyelele la angola no Lazo mambo yalla
Yalla. C'est un extrait du dernier album de Christine Salem, Merci, avec donc des percussions, le violon, Frédéric Norel, et puis à la guitare, Seb Martel. Bonjour Christine Salem.
Bonjour.
Nous, on avait l'habitude de vous écouter des heures et des heures, juste accompagné d'une percussion ou même rien. Hein. C'est-à-dire que vous avez une telle voix que vous pouvez vous permettre des chants a cappella. Mais ce disque, ce dernier disque, est très très musical. Vous êtes très très bien entouré. Comment vous êtes allé à la rencontre de ces musiciens ?
En fait, moi, quand je compose en fait la musique, j'entends tous les instruments et du coup, je suis allé vers ça, c'est-à-dire j'entendais le violon, j'entendais le diabouka, le rouleur, la guitare. Et à l'époque où je commençais à composer, donc le groupe était composé que de percussionnistes et Seb Martel. Et donc je me suis dit, je vais rajouter un violon. Et j'ai rencontré Frédéric Norel dans le cadre d'un projet qui m'avait proposé de participer, il a retravaillé mes chansons et en fait il a fait des arrangements pour que je puisse chanter avec un orchestre symphonique. Et donc on s'est rencontrés à partir de là et je lui avais demandé à ce qu'il joue dans un groupe, il m'a dit non. Je lui ai demandé ce qu'il voulait venir jouer avec moi, il a dit oh là là, grand cœur, et c'est parti comme ça en fait. Mais j'ai jamais vu Frédéric Norel jouer avant ça. C'est vraiment le truc qui est arrivé instantanément et moi j'aime bien des rencontres comme ça aussi. Pour moi c'est pas un hasard, le hasard n'existe pas.
C'est la profession de foi qu'on entend dans cette chanson, Yalla, Christine Salem.
Oui, voilà, c'est la profession de foi, c'est aussi un remerciement, que le fait d'être en vie, le fait de se réveiller en forme et en bonne santé tous les matins, je pense que c'est la première chose à se dire, enfin en tout cas pour moi c'est l'essentiel. Et c'est vrai que cet album, je suis parti vraiment dans cet objectif-là, de vraiment la reconnaissance envers mes ancêtres, envers les gens qui jusqu'à aujourd'hui qui m'encouragent et qui sont là pour moi pour persévérer dans la musique et dans la vie en général.
Est-ce que vous faites toujours du maloya, Christine Salem, ou est-ce que le maloya c'est le socle, c'est à partir de ce socle que vous avez imaginé un autre votre monde musical qui n'arrête pas d'ailleurs de s'enrichir au fil des albums?
Par rapport à mon histoire, je vais bien répondre depuis le début, et en fait j'ai commencé le maloya parce que j'en avais marre d'entendre les gens, surtout à La Réunion, de me dire que le maloya c'est pas une musique qui va sortir de La Réunion, et du coup j'ai pris ça comme défi pendant des années, et j'ai mis complètement de côté les styles de musique que j'aime en fait, par exemple le blues que j'adore. Et à un moment donné de ma vie, quand j'ai reçu la médaille Chevalier des Arts et des Lettres, je me suis dit j'ai quand même faire évoluer le maloya. Et puis par des voyages aussi que j'ai fait, des tournées depuis 2000, je viens en tournée en métropole, et là je me suis dit je garde aussi le maloya, ça, de toute façon ça fait partie de mes racines, ça fait partie de moi, et je vais partir dans les musiques, dans les styles que j'aime aussi, et c'est comme ça, c'est parti de cette idée là c'est que je me suis dit aujourd'hui je vais penser à moi aussi, et voilà ce qui a donné cet album en fait.
C'est quoi le maloya pour vous? Quelle est la définition que vous faites de ce style musical, de ce blues de La Réunion, Christine Salem?
Alors pour moi le maloya c'est une musique qui vient des esclaves, hein, de nos ancêtres. Pour moi, en premier plan, c'est une chanson qui fait partie des cérémonies. C'est pour ça, à chaque fois, je me dis, s'il n'y avait pas de cérémonie, il n'y avait pas de maloya. avant tout, c'est une musique qui est chantée dans les cérémonies, ce qu'on appelle chez nous le service cabaret aussi. Et c'est un moment dans l'année où les familles qui ont des origines africaines ou malgaches, où on fait, c'est un moment où on fait des offrandes à nos ancêtres, on les honore pendant 24 heures. Et là, évidemment, c'est la fête, c'est la transe. Et quand je parle de transe, c'est-à-dire à travers la musique, les gens, à un moment donné, ils sont habités par des esprits. Et là, ça chante, ça danse. Ça peut aller aussi dans la prédilection de certaines choses. Et c'est un moment vraiment où moi, je... Voilà, pour moi, c'est de remercier justement nos ancêtres pour là où je suis, où notre peuple est aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a des instruments de musique spécifiques au Maloya, Christine Salem?
Oui, il y a le rouleur dont joue Jackie sur le disque. Donc il y a le rouleur, c'est un tonneau avec à l'extrémité une peau de vache qui est retirée par des cordes. Et puis moi, je joue du kayamb, ces deux instruments-là, en tout cas, c'est les instruments traditionnels, enfin fétiches. Après, il y a ce qu'on appelle le sati que joue Anne-Laure. C'est un plaque de fer et on tape dessus avec des baguettes. Ça, c'est vraiment les trois instruments traditionnels de la Réunion. Après, il y en a d'autres. Et il y a le bob qui vient se rajouter. C'est comme un bilimbao qu'on retrouve dans le capoeira, la musique pour le capoeira. C'est les trois instruments qu'on retrouve dans la tradition et surtout au moment où on fait les cérémonies, ces instruments sont présents.
Là, un autre instrument invité dans votre dernier album, l'harmonica.
Culturel, Tofik Hakem sur France Culture.
Et ce matin, avec Christine Salem, Oizae, avec cette harmonica. Alors, l'harmonica, pourquoi, Christine Salem?
Alors, c'est vraiment l'instrument qui est arrivé vraiment inattendu. En fait, chez moi, j'ai plein d'instruments que je ne joue pas forcément. Et ce jour-là, j'avais envie d'essayer l'harmonica et ça a marché. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, on met l'harmonica.
Oui, allez-y.
Moi, j'aime bien, en fait, explorer plein de pistes. Et l'harmonica, c'est un instrument que j'aime bien, que j'adore. Et d'ailleurs, ça c'est une chanson incantation au Isaé, en fait c'est le nom un de mes ancêtres. Donc c'est aussi du côté plutôt malgache, et donc l'harmonica, ça me fait très très bien penser la musique malgache aussi en même temps.
Quand vous composez, Christine Salem, vous avez plutôt la guitare à votre disposition, ou vous préférez composer au piano, vous qui êtes musicienne et qui jouez plusieurs instruments?
Ça dépend. Ça, en fait, j'ai envie de dire que ça dépend. Si au moment où je suis sur le piano, il y a un truc qui me passe par la tête, donc je le fais. Mon dernier album, enfin l'avant-dernier album, L'Arc pas le corps, il y a plein de chansons que j'ai composées, pas mal de chansons que j'ai composées d'ailleurs au piano. Et donc je joue pas du piano, hein. J'ai jamais appris du piano, mais moi j'aime bien explorer en fait les instruments. Voilà, je pense que c'est le son de ces instruments qui entre dans mon corps. Il se passe, il y a quelque chose qui se passe, et en fait c'est comme ça, en fait ça arrive les. Et puis moi, je commande pas en fait l'inspiration, c'est-à-dire si je suis chez moi, tout d'un coup, je peux partir sur le piano, et puis boum, il y a la chanson qui naît. Je peux être dans la voiture, tout d'un coup, il y a un truc qui me vient dans la tête, donc je la chante, et c'est constamment comme ça en fait.
Vous avez été initiée à un instrument de musique, Christine Salem, ou vous avez tout appris d'une manière complètement libre, c'est-à-dire en tant qu'autodidacte?
Complètement autodidacte, complètement. Soit la guitare, la percu, complètement autodidacte. J'ai jamais fait d'école de musique, de conservatoire.
Et de chant?
Et de chant non plus.
Alors comment ça a commencé? Comment votre carrière a commencé? Parce que vous avez une voix remarquable, qui, et d'ailleurs vous utilisez très souvent votre voix seule, nue, pour chanter. Comment êtes-vous arrivé au chant, puis à la musique, Christine Salem, s'il fallait raconter vos débuts?
Alors en fait, moi depuis petite, en fait, j'adore chanter. Je chantais tout le temps. Enfin, même ma mère, elle me disait, mais toi, voilà, tout dans. En fait, je chante depuis le matin. Et à chaque fois, je dis, je pense que je chante depuis dans le ventre de ma mère, en fait. Et c'est vrai que quand j'étais au collège et tout ça.
Mais vous chantiez quoi quand vous étiez jeune?
Ben, je chantais de tout, en fait. Tout ce que j'entendais à la radio, je chantais de tout. Après, quand j'ai découvert la musique, le maloya, je l'ai découvert un peu sur le tard, enfin, vers 8 ans, 10 ans. Et là, j'ai commencé à chanter un peu le maloya, comprendre un peu certaines choses. Et après, au collège, j'avais un prof de chant, et je ratais jamais le cours de chant parce que j'aimais chanter. Mais c'était plutôt style chant américain.
Gospel,
Stevie Wonder, Donna Summer. Enfin, j'avais un prof qui était plutôt style américain, blues aussi. Et puis dans mon quartier, en fait, mon quartier, il y a plein de musiciens. En fait, j'ai appris la musique par ces musiciens qui habitaient dans mon quartier, qui pas forcément des gens qui faisaient partie des groupes, mais il y avait des guitaristes, des percussionnistes. Il y avait un qui jouait aussi de l'accordéon, et donc avec eux j'ai appris, parce que nous en fait presque tous les soirs on se réunissait au bas de l'immeuble et on faisait de la musique, en fait c'est comme ça que j'ai, d'ailleurs il y en a plein de mon quartier qui ont aussi appris la musique comme ça.
Et ben alors s'il fallait donner le nom de votre quartier dans l'île de la Réunion, Christine Salem,
c'est les Camélias.
Les Camélias.
Les Camélias, oui, où j'ai grandi. Enfin, je suis arrivé aux Camélias, j'avais 7 ans. Et j'ai quitté il y a 3 ans.
Il y avait toutes les langues, parce que on a l'impression qu'on retrouve plusieurs langues dans vos chansons. Et des fois, des langues qui se mélangent.
Alors, en fait, il y a des chansons, par exemple, justement, comme Isaé, Mama Africa, Anou, Guerrier. En fait, c'est des chansons que je chante dans mes cérémonies, et que je fais une réadaptation en fait pour l'album et pour chanter sur scène, parce que les chants des cérémonies, souvent comme c'est des incantations, ça fait partir les gens en transe, et du coup moi ces chansons là je les réadapte pour enregistrer pour la scène.
Et en quelle langue
Alors je chante en swahili, en arabe, en dialecte africain.
Et vous arrivez aussi de chanter en anglais et en français.
Et en anglais et en français, ouais, c'est ma première d'ailleurs.
Merci. m'a prié, m'a lagué, mon cœur révolutionné. Donne la lumière pour autre fait clair, baya, m'a prié, pour moi dit merci. La lumière, bon Dieu. Alléluia. Ou même la fée wa moins. Oui, alléluia. Ou même pour guetta moins.
On a l'impression qu'on comprend ces mots, et pourtant. Et pourtant, c'est une langue qui nous échappe, qui conserve son mystère.
Merci, c'est en créole.
C'est du créole.
C'est du créole réunionnais, oui. Et en fait, c'est une chanson. L'histoire de cette chanson, en fait, j'étais en train de faire du ménage chez moi. Et j'étais en train de penser, j'étais en train de dire. C'est super, j'ai une maison, j'ai quoi de je vais pas dire de me contenter de ce que j'ai, mais j'étais dans une gratitude. C'est comme si je regardais ce que j'avais et je remerciais le ciel. Et cette chanson est née à ce moment-là. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai enregistré et j'ai gardé les paroles telles que je l'avais chantée. J'ai rien changé. Des paroles de cette chanson qui est venue spontanément, en fait.
Et qu'est-ce qu'elle raconte, cette chanson d'a cappella, Christine Salem, pour terminer?
Alors, c'est une chanson qui raconte, c'est une reconnaissance, justement, c'est une sorte de gratitude, de remerciement, à la vie, comment je la vis aujourd'hui, d'être en bonne santé, d'être entouré, des belles personnes et aussi de mes ancêtres qui sont là pour veiller sur moi et sur la famille, même les gens que j'aime. Et pour moi, c'est une reconnaissance, c'est un grand remerciement, en tout cas.
Malgré les temps troubles, pour ne pas dire durs, que nous traversons.
Exactement. Je pense que moi, je me dis du moment que je me lève le matin, je suis en bonne santé, je respire, c'est l'essentiel.
Et vous rêvez de retrouver, je suppose, comme tous les artistes,
comme tout le monde.
La scène, oui, les musiciens, le public.
Exactement. Alors là, on n'attend que ça. On n'attend que ça. Après, moi, je me dis, si c'est arrivé à ce moment-là, c'est parce que il fallait que ça arrive à ce moment-là. Et moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est ça m'a permis, surtout dans le premier confinement, ça m'a permis de faire beaucoup de remises en question et peut-être d'avancer autrement dans la vie. Et j'ai pris conscience que de vivre le moment présent, c'est hyper important. Et voilà ce que je fais maintenant, d'ailleurs. Et voilà, je vis la vie comme la vie vit en moi.
Merci, Christine Salem.
Merci beaucoup.
Merci. Le dernier album de Christine Salem est disponible sur toutes les plateformes musicales. En attendant de la retrouver, j'espère, le plus tôt possible sur scène, parce qu'elle est vraiment exceptionnelle sur scène. Christine Salem, merci de vous réveiller avec France Culture, avec les petits matins de France Culture et le réveil culturel. Bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
À la veille d'un grand conseil européen, la Grande Table déconfine la culture et les idées toute cette semaine avec des grandes voix européennes.
Sur France Culture, la Grande Table, Olivia Gesbert.
De la polonaise, prix Nobel de littérature Olga Tokarczuk, au plasticien italien Giuseppe Pennone. Nous parlerons aussi couple franco-allemand avec l'ancien eurodéputé Daniel Cohn-Bendit ou démocratie en temps de pandémie avec la belge Chantal Mouffe.
Semaine Europe dans la Grande Table, du lundi au jeudi à midi sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Le choc économique dû à la crise sanitaire touche particulièrement les jeunes. Comment éviter une génération sacrifiée ? Le Cercle des économistes lance le débat depuis Toulouse et donne la parole aux jeunes aux côtés de 40 intervenants. Participez à l'événement en ligne et en direct le 10 décembre à partir de 9h30 et posez vos questions dès maintenant sur lecercledeséconomistes.fr. Un partenariat Radio France.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Couvre-feu avancé, réouverture des cinémas et théâtres repoussés, déplacements limités. Jean Castex doit trancher ce soir et dire si le déconfinement aura lieu comme prévu mardi prochain ou si la situation sanitaire exige le maintien des restrictions à 15 jours de Noël. Casse-tête en vue pour le Premier ministre, vous l'entendrez. Nous irons ensuite à Bruxelles où les discussions pour mieux encadrer le Brexit vont encore durer 4 jours. Date limite ce dimanche, c'est en tout cas ce que promet la Commission et le gouvernement britannique. Pendant ce temps, les 27 de l'Union se penchent toujours sur leur plan de relance face à la crise du Covid. Budapest et Varsovie sont d'accord pour lever leur veto à propos de ce plan de relance. Les négociations pourraient donc s'engager sur des mesures écologistes de ce plan. Dans ce journal enfin, notre correspondant en Inde nous racontera comment les nationalistes hindous veulent empêcher les mariages interreligieux. La police, forte d'un nouveau décret, devient violente. Le confinement va-t-il être un peu plus assoupli mardi prochain, 15 décembre, comme Emmanuel Macron l'avait avancé ? Réponse a priori ce soir, 18h, avec une conférence de presse du Premier ministre Jean Castex. Le président de la République avait donné comme condition à ce déconfinement d'arriver à moins de 5000 contaminations par jour dans le pays. On en est loin, plus de 14000 hier encore. Matignon indiquait que rien n'était encore tranché et c'est effectivement un Castex. Castex reconnaît Chloé Morin, experte associée à la Fondation Jean Jaurès, spécialiste de l'opinion publique. Elle était aussi conseillère en charge de l'opinion publique au sein des cabinets des premiers ministres Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls de 2012 à 2016.
On voit bien qu'il y a une préoccupation constante de l'exécutif, surtout depuis la rentrée de septembre, de tenir compte de ce qu'on appelle l'acceptabilité des mesures par l'opinion. Ils cherchent sans cesse le bon dosage, justement pour essayer d'éviter que la colère ne monte à l'encontre des mesures qui sont prises. On sent qu'ils sont sur un équilibre assez précaire. Du coup, le gouvernement se trouve dans la position où non seulement il doit faire son autocritique, puisque vraisemblablement les règles qu'il a instaurées ne permettent pas d'atteindre les objectifs qu'il souhaitait, et par ailleurs, ménager une opinion publique dont on sait qu'elle a Noël et les fêtes de fin d'année en ligne de mire et que ça serait très difficile d'annoncer aujourd'hui aux familles que ben non, on ne pourra pas voyager pour passer Noël avec ses parents ou que sais-je encore.
C'était la spécialiste de l'opinion publique Chloé Morin, interrogée pour France Culture par Rosalie Lafarge. Je précise que le gouvernement demande aux pharmaciens d'anticiper quand même la forte demande en tests prévue à Noël. Les officines devront disposer à partir du 14 décembre, c'est-à-dire lundi prochain, d'un stock important de tests antigéniques. Ce sont des tests rapides, mais moins fiables que les tests PCR. Et si en France, le nombre de patients à l'hôpital baisse tout de même, ce chiffre, en revanche, est exponentiel aux États-Unis en ce moment. 3000 morts en 24 heures, plus de 220 000 infections et des hôpitaux surchargés. Les autorités sanitaires américaines s'attendaient à cette flambée après les déplacements de millions d'Américains à l'occasion de la fête de Thanksgiving il y a 2 semaines, et ce, malgré les appels à rester chez soi. La fin d'année approche donc, les craintes pour certains des fêtes en famille, et la crainte aussi d'un départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. Nous sommes à 3 semaines d'un Brexit effectif. Hier soir, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique, Boris Johnson, ont décidé de se donner une nouvelle fois quelques jours pour négocier. Mais c'est sans enthousiasme, Angélique Bois.
Il se laisse encore 4 jours pour trancher. Nous avons eu une discussion animée et intéressante, indique la présidente de la Commission, mais les positions restent très éloignées. Les négociateurs des deux camps, Michel Barnier et David Frost, sont donc invités à rediscuter. Mais une décision sera prise d'ici dimanche, précise Ursula von der Leyen. C'est la date limite pour permettre aux eurodéputés d'étudier puis de ratifier un éventuel accord avant début janvier. À Londres, même tonalité, un très grand écart subsiste. On ne sait pas comment le combler. Là aussi, on ne jette pas l'éponge. Le Premier ministre ministre veut être sûr d'avoir exploré toutes les pistes, indique un porte-parole. Jamais la perspective d'un échec n'a été aussi proche. La Commission devrait présenter dans la journée une première batterie de mesures d'urgence pour les secteurs économiques les plus menacés. Mais l'absence d'un accord sur la relation future entre les deux ex-partenaires, ce ne sera pas non plus le saut dans l'inconnu que l'on redoutait tant l'an dernier, tempère un diplomate, et cela grâce à l'accord de retrait qui organise dans bien des domaines une sortie ordonnée.
Angélique Boin, depuis Bruxelles, Bruxelles où se retrouvent aujourd'hui et demain les dirigeants européens en présentiel cette fois. Un sommet présenté comme crucial, d'autant que les Hongrois et les Polonais seraient prêts à lever leur veto sur le budget du plan de relance européen. Ce compromis a été négocié avec l'Allemagne et il faut encore que les autres chefs d'État et de gouvernement le valident aujourd'hui et demain. Lorsque cette question sera tranchée pour le budget du plan de relance, les 27 pourront alors aborder la question climatique. L'objectif affiché est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici à 2030. Cela ne suffira pas si l'on n'oriente pas correctement les 750 milliards d'euros du plan. Voilà ce que répond Neil Makarov. Il est chargé de l'Europe au sein du réseau Action Climat.
Si on se fixe le bon niveau d'ambition climatique lors de ce sommet européen, c'est-à-dire un niveau qui nous permette de limiter le dérèglement climatique à 1,5 degré, auquel cas il faudra investir énormément d'argent du plan de relance vers la transition écologique. Alors pour la première fois, il semble qu'il y ait un consensus qui est en train de se créer sur un nouvel objectif climatique européen de moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre pour 2030. Maintenant, ce n'est pas vraiment le niveau d'objectif qui est discuté, c'est comment on y arrive. Et qu'est-ce que l'Europe peut faire pour aider les pays, notamment les plus en retard sur le climat, comme la Pologne, comme la Tchéquie, comme la Grèce par exemple, à accélérer la transition écologique, à sortir du charbon. Et ce qui est important, c'est que l'Europe puisse donner des moyens financiers à ces pays pour aider les travailleurs, notamment du secteur du charbon, à trouver un nouvel emploi, aider également la transition vers les énergies renouvelables, vers la rénovation du bâtiment, et également puisse fixer les bons niveaux de normes pour obliger quelque part aussi les industries dans tous les pays à faire cette transition et à changer de braquet. On pense souvent à l'industrie automobile par exemple. Il faut que l'Union européenne soit en capacité de fixer des standards de CO2 pour les véhicules qui obligent l'industrie automobile à aller vers le véhicule électrique plutôt que de rester dans le véhicule diesel ou essence, qui est aujourd'hui une catastrophe pour le climat et pour la santé des Européens.
Les propos recueillis par Véronique Roberotte. Un accord de libre-échange entre Londres et Singapour, annonce faite ce matin dans le contexte que nous évoquions tout à l'heure, contexte difficile du Brexit pour les Européens. Le Royaume-Uni se rapproche donc de Singapour avec des échanges de 22 milliards de dollars par an. Ce pourrait être un appui important en Asie pour Londres. Partons maintenant en Inde, où l'État très peuplé de l'Uttar Pradesh est parti en guerre contre les mariages interreligieux. Son gouvernement, tenu par un moine hindouiste, a passé un décret il y a 10 jours qui punit de prison la conversion religieuse dans le cadre du mariage. Selon les nationalistes hindous, les musulmans indiens essaieraient de convertir des femmes hindoues. Cela n'a pas été prouvé. Il n'empêche, la police a arrêté déjà de nombreux musulmans en couple avec des hindous. Sébastien Farcy.
Mercredi dernier, la police de l'Uttar Pradesh interrompt la cérémonie de mariage d'un couple hindou et musulman. Samedi, c'est un homme musulman venu enregistrer son mariage avec sa compagne hindoue qui est arrêté, accusé de l'avoir converti de force, ce que la femme elle-même dément. À chaque fois, la police invoque ce nouveau décret qui punit de prison toute personne qui en convertit une autre par le mariage et qui impose un contrôle sévère sur les conversions des hindous. Les nationalistes hindous veulent ainsi stopper ce qu'ils appellent le djihad de l'amour, un prétendu plan initié par les musulmans pour islamiser l'Inde en épousant des femmes hindoues. Un complot qui n'a en fait jamais été prouvé, mais qui devient une nouvelle arme pour harceler les musulmans. Abiya est une jeune poète musulmane de cet état de l'Uttar Pradesh.
L'État nous a retiré notre droit d'aimer librement. Maintenant, je devrais réfléchir 10 000 fois si je peux aimer cette personne, car ce sera si compliqué et dangereux. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons est appelé djihad. C'est comme si les musulmans étaient considérés comme des terroristes jusqu'à preuve du contraire.
Le parti nationaliste hindou du Premier ministre prévoit d'adopter des lois similaires dans 4 autres États qu'il dirige.
C'était notre correspondant en Inde, Sébastien Farcy. Nous évoquions hier ici même même le boycott de footballeurs lors d'un match européen de Ligue des Champions, refus de jouer après des soupçons de racisme de la part d'un arbitre près du terrain. Le match s'est finalement joué hier soir après que les participants ont posé un genou à terre, un signe de protestation contre le racisme. Et in fine, par ailleurs, les Parisiens ont battu les Stambouliotes. La météo en France métropolitaine, des pluies de la Normandie jusqu'aux Pyrénées en passant par le Massif central. Ailleurs, les éclaircies seront discrètes ce jeudi, sous des températures de saison. Ce matin, il fait 1 degré à Strasbourg, 4 à Paris et à Lyon, 8 degrés à Nice, mais déjà 10 degrés ce matin sous la pluie de Bordeaux. C'est l'heure du journal des idées avec Jacques Munier. Bonjour Jacques.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Il est 6h40 sur France Culture. Alors Jacques, selon une enquête Ipsos, la France est le pays le plus réticent face au vaccin anti-Covid, avec 59% seulement des personnes favorables contre 74% au niveau mondial. 59% donc en France, et 20% des Français, Jacques, y seraient même farouchement opposés.
Ouais, désolé pour tous ces chiffres, Clara.
On a compris.
Oui, je vais continuer encore un petit peu. Les raisons invoquées, c'est d'abord évidemment la crainte des effets secondaires, les doutes aussi quant à l'efficacité du vaccin ou face à la menace de contagion elle-même, l'opposition de principe enfin. Tout ça, ce sont donc les raisons invoquées pour cette désaffection, on va dire. Et l'attitude des laboratoires qui semblent cultiver l'opacité, tarde à rendre public des données scientifiques exhaustives, n'incite pas non plus à l'adhésion spontanée. Mardi, le vaccin développé par AstraZeneca et l'université britannique d'Oxford est le premier à avoir vu ses résultats d'efficacité validés par une revue scientifique, The Lancet, indique Le Monde. Même s'il est vrai que les vaccins ont été réalisés en pleine pandémie dans un temps record, des données cruciales comme leur efficacité chez les personnes âgées ou présentant des comorbidités, la durée de protection manque encore pour Else Torrelli. Chercheuse en santé publique, les gouvernements ont manqué l'occasion d'exiger des sociétés pharmaceutiques ces informations essentielles à la mise en œuvre d'une stratégie sanitaire, alors même qu'ils ont préacheté des doses de vaccins et auraient pu leur mettre la pression. Tout cela ne favorise pas la confiance déjà bien atteinte chez nos concitoyens envers les institutions, le système de santé, même la science. Ce qui explique sans doute en grande partie l'engouement qui se développe pour les parasciences, comme la voyance, la sorcellerie ou l'astrologie, dans un contexte d'expansion des théories complotistes. Louise Jussian a décortiqué pour la Fondation Jean Jaurès les résultats d'un sondage récent de l'IFOP pour Femmes Actuelles. Une majorité de Français, 58%, déclarent croire au moins l'une de ces parasciences, l'astrologie, 41%, les lignes de la main, 29%, la sorcellerie, 28%, la voyance, 26%, la numérologie, 26%, ou la cartomancie, 23%. Un phénomène en hausse continue depuis au moins une vingtaine d'années. Résultat, aujourd'hui, 40% des moins de 35 ans croient en la sorcellerie, contre 25% des plus de 35 ans. L'analyste évoque une enquête de 2017 réalisée par la Fondation Jean Jaurès, Conspiracy Watch et l'IFOP, qui montrait que la proportion de personnes adhérant à la thèse d'une collusion entre le ministère de la Santé et l'industrie pharmaceutique sur la nocivité des vaccins était nettement plus élevée chez les adeptes des horoscopes, 73% contre 51% chez les Français ne consultant jamais leur horoscope. Et elle met en lumière la corrélation entre la croyance dans ces pratiques et l'adhésion aux visions complotistes du monde, suggérant l'hypothèse d'un raisonnement psychologique commun aux parasciences et à certaines théories complotistes autour de l'idée que la vérité est ailleurs. Le slogan, vous vous souvenez, de la célèbre série X-Files. Je la cite, « Ne sachant jamais quelle vérité est la bonne, croire au complot ou à la définition de son caractère par les astres réduit le coût de la recherche et de la réflexion, tout en apportant des clés de lecture rassurantes dans un environnement sociétal de plus en plus anxiogène. » Un phénomène évidemment amplifié par la crise sanitaire qui exacerbe l'opposition entre une vérité scientifique complexe et un récit alternatif facile d'accès. Pour Charlie Hebdo, Lord Ossi et Lorraine Redeau ont mené l'enquête sur le retour en grâce de la figure de la sorcière dans certains milieux féministes, illustré par le succès de livres comme celui de Mona Chollet sur les sorcières qui a dépassé les 250 000 exemplaires, ou encore les 500 000 abonnés à certains comptes méphistophéliques sur les réseaux sociaux. Rien à voir ou si peu avec les manifs du MLF qui scandaient « Giroud, t'es foutu, les sorcières sont dans la rue » à l'adresse de la première et giscardienne secrétaire d'État chargée de la condition féminine. Aujourd'hui, la sorcière est un produit d'appel, tendance bave de crapaud en concoction avec amulettes et tarots divinatoires. Les magazines féminins emboîtent le pas aux trépins endiablés. Et gare à vous, RTL, la première radio de France, ne parle plus que de spiritualité à ce sujet, reléguant les mots tabous comme paranormal ou occultisme. C'est qu'il s'en passe des choses dans cet univers parallèle. Des bébés sorcières du réseau TikTok ont osé jeter un sort à la Lune. On ne sait pourquoi, mal leur en a pris. S'attaquer à la Lune, c'est comme blasphémer chez les sorcières. Réactions indignées sur les réseaux, criant au manque de respect pour la Lune. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Avec vous, Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques.
Ce matin, Julie, l'Europe est-elle en train de devenir un acteur à part entière de la lutte antiterroriste?
Oui, le sommet européen de ce jour sera pour une grande part consacré au budget du plan de relance et au pacte vert européen, mais la lutte contre le terrorisme est toujours abordée dans ces réunions à 27, d'autant plus cette semaine, à l'approche d'une échéance présentée comme cruciale par la Commission européenne, le vote d'une législation sur les contenus terroristes en ligne. Bonjour Thomas Renard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur à l'Institut Egmont à Bruxelles. Est-ce qu'on sait dire aujourd'hui à peu près sur l'ensemble du territoire européen et sur l'année en cours, quelle part d'actes terroristes ont été commis suite à une radicalisation en ligne?
Alors ce serait assez difficile à
comptabiliser,
à chiffrer de manière très précise, mais on sait évidemment que la dimension en ligne online de la radicalisation d'une part et des attentats ou des tentatives d'attentats d'autre part est aujourd'hui beaucoup plus importante qu'elle ne l'était par le passé, et elle est en fait majoritaire, c'est-à-dire que on vit dans une société largement digitalisée, on a tous un smartphone, on utilise tous notre ordinateur quotidiennement, etc. Et donc il est évident que les individus en voie de radicalisation ou les terroristes utilisent Internet et les nouvelles technologies autant que nous le faisons, si pas plus, puisque ça offre toute une série d'avantages. Et puis effectivement, la radicalisation, elle peut être facilitée par le facteur en ligne, parce qu'on peut rentrer en contact avec des prédicateurs de haine, des recruteurs qui se situent sur le territoire national ou au-delà, et qui mettent en ligne des contenus qui sont dès lors facilement accessibles, etc. Donc cette dimension en ligne, elle est aujourd'hui très présente, et on pourrait dire par exemple, les chiffres qui circulent, c'est que dans les enquêtes criminelles, donc au-delà du terrorisme, 85% des enquêtes criminelles aujourd'hui ont une dimension en ligne, c'est-à-dire quand on enquête sur ces crimes, dans 85% des cas, il faut avoir accès à ce qu'on appelle des preuves numériques. En tout cas, il y a une dimension tout à fait en ligne qui se passe, et dans plus de 50% de ces enquêtes, cette dimension, elle est même internationale. Donc c'est vraiment ça l'enjeu aujourd'hui.
Et pour y avoir accès, Thomas Renard, il faut parfois décrypter quand les messages sont postés sur des messageries cryptées. Il faut les décrypter, il faut faire des demandes, par exemple en Russie ou aux États-Unis pour y avoir accès. Est-ce que l'Union européenne aujourd'hui a les moyens, a les forces nécessaires pour faire ça?
Alors effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, puisque dans énormément d'enquêtes, il faut avoir accès à ce qu'on appelle la preuve numérique. Alors la preuve numérique, c'est quoi? Ce sont des emails, ce sont des messages sur Facebook, sur Twitter, des messageries sur des messageries cryptées, sur des forums en ligne, etc., etc. Et ce qu'il faut, c'est avoir accès au contenu. Alors parfois, ce contenu, il est ouvert sur Facebook, sur Twitter, n'importe qui sait le lire. Parfois, ce contenu, il est caché. Et puis surtout, parfois, ce contenu, il est posté de manière anonyme, ou en tout cas sous un pseudonyme. Et donc, il faut pouvoir identifier l'adresse IP et donc connecter ce pseudonyme ou ce message anonyme à une identité tout à fait réelle. Et pour ça, il faut effectivement avoir la coopération du provider, de la plateforme qui héberge ces contenus-là. Et cette plateforme-là et les serveurs qu'elle utilise ne sont souvent pas sur le territoire national. On l'a vu d'ailleurs encore dans le cas et dans le cadre du procès de l'attentat sur l'attentat du Thalys qui a lieu en ce moment, d'Ayoub Al-Kazani. Il y a ce volet avec des preuves numériques qui est sorti ces derniers jours, avec des échanges de messages qui permettraient d'incriminer des individus qui sinon ne pourraient pas l'être. Et donc ça implique de coopérer d'une part avec ces plateformes, d'essayer d'obtenir les messages à travers ces plateformes, si elles le souhaitent, si elles le veulent bien, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui souvent n'est pas le cas, ou alors de passer par un pays tiers où ces sociétés sont hébergées, où se trouvent les serveurs, souvent les États-Unis, parfois la Russie, effectivement. Et donc là, il faut faire une demande de magistrat à magistrat, de police judiciaire à police judiciaire pour obtenir ces preuves numériques. C'est très très long. Souvent, ça n'aboutit pas. Et donc, la volonté des États européens et de la Commission européenne, effectivement, c'est de réguler sur cet aspect-là pour faciliter, pour accélérer le processus d'acquisition de la preuve numérique, ce qui pourrait avoir un impact énorme au niveau des procès, puisque si on avait davantage accès à ces preuves numériques, souvent, on pourrait davantage condamner davantage d'individus ou en tout cas faciliter le processus d'enquête pour démontrer la culpabilité d'un individu ou d'un autre.
Et vous venez de dire, Thomas Renard, que les plateformes ne coopéraient pas toujours, sans doute parce que Facebook, Twitter aujourd'hui font le même poids que les États. On peut difficilement les contraindre. Est-ce que l'Union européenne, les 27, tous ensemble, y parviendraient davantage? En tout cas, c'est l'idée.
En tout cas, c'est l'idée. Alors, c'est déjà très compliqué pour des pays comme la France ou la Grande-Bretagne de faire plier ou d'imposer leur volonté à des multinationales gigantesques comme Facebook et Twitter. Donc, le pari, c'est effectivement de s'allier à l'échelle européenne, puisqu'un marché, comme on le dit souvent, de 500 consommateurs et puis une puissance économique telle que l'Union européenne a davantage de poids. On a vu comment l'Union européenne a réussi à imposer des amendes énormes à ces plateformes numériques, mais qu'en même temps, même au niveau de l'Union européenne, ce sont des discussions qui restent compliquées. Mais donc, effectivement, les États européens ont fait le pari de se positionner au niveau de l'Union européenne dans ces discussions-là. Il existe depuis quelques années différents formats, notamment ce qu'on appelle le EU Internet Forum, qui est vraiment un forum, une réunion qui a lieu plusieurs fois par an où l'Union européenne, notamment la Commission européenne, le Parlement européen, rencontre les représentants de Facebook, de Twitter et d'autres plateformes numériques afin d'essayer de trouver des accords sur un certain nombre de problématiques, notamment les contenus, ce qu'on appelle les contenus extrémistes en ligne, pour faire en sorte que ces plateformes essayent de jouer leur rôle, de prendre leurs responsabilités et de modérer davantage leur contenu. Facebook, par exemple, a fait énormément de travail ces dernières années pour essayer de retirer les contenus en ligne le plus rapidement possible, soit quand on leur signalait, soit de leur propre initiative. Mais on le voit encore aujourd'hui, pour tous ceux qui recherchent des contenus extrémistes, djihadistes en ligne, encore sur Facebook, encore sur Twitter, on peut facilement trouver ces contenus-là. Donc ça ne fonctionne pas, ce n'est pas suffisant. Et donc c'est là que les États européens et la Commission européenne cherchent à aller plus loin pour notamment forcer ces plateformes à retirer ces contenus beaucoup plus proactivement et surtout beaucoup plus rapidement. Dès qu'on leur signale un contenu, ils doivent pouvoir le retirer en moins d'une heure, alors qu'aujourd'hui, parfois, il faut beaucoup plus de temps pour ça.
Les plateformes qui, pour certaines, ont des serveurs sur le territoire européen, notamment en Irlande. Mais ensuite, si donc retirer un contenu en moins d'une heure, vous qui êtes à Bruxelles, par exemple, Thomas Renard, si la Belgique décidait de bloquer un contenu sur quelques sites Internet, si, je dis bien la Belgique et non pas une plateforme en Belgique, mais si la Belgique décidait de bloquer un contenu sur un site Internet, est-ce que nous, ici en France, on y aurait toujours accès?
Alors, c'est un peu la difficulté, effectivement, de cette matière, c'est que il y a un grand Internet, un grand cyberespace, mais en fait, c'est quelque part une illusion, puisqu'on peut bloquer l'accès à des contenus dans un pays, alors que ces contenus restent accessibles dans d'autres pays, hein, et donc il suffit de penser à la manière dont l'Internet fonctionne en Chine, en Iran, en Russie, et de comprendre que dans nos pays, quelque chose de tout à fait similaire est tout à fait possible et en fait a lieu puisque différents types de contenus sont plus ou moins tolérés dans certains pays que dans d'autres. Et la problématique se pose aussi par rapport aux contenus djihadistes et aux contenus extrémistes. Donc l'idée, effectivement, c'est de légiférer, de réguler au niveau européen pour que quand un pays signale un contenu problématique, que ce contenu ne soit plus accessible dans le pays qu'il a signalé, mais aussi sur l'ensemble du territoire européen, et à utiliser cela aussi comme levier pour rendre ces contenus inaccessibles au-delà de l'Europe aussi, puisqu'effectivement, il ne s'agirait pas que ces contenus restent accessibles par un VPN, par une adresse indirecte, ailleurs dans le monde.
Et quels sont alors les débats provoqués au Parlement européen par cette proposition, et plus généralement, comment l'Europe de l'antiterrorisme, pour le dire vite, est en train de se construire avec le Parlement, avec aussi les réticences du Parlement chargé de rappeler tout le débat entre liberté et sécurité?
Oui, donc il y a, comme vous l'avez dit dans votre introduction, il y a une discussion, il y a une proposition qui est discutée aujourd'hui entre la Commission européenne, le Conseil, donc les États membres et le Parlement européen, concernant le retrait de ces contenus problématiques en moins d'une heure. Et c'est une discussion qui, en fait, a débuté déjà en 2018. Et c'est assez compliqué parce que le Parlement européen est réticent, d'une manière tout à fait légitime, parce que le Parlement européen, quelque part, est le garant aussi du respect d'un certain nombre de principes, notamment le respect des libertés fondamentales, des droits de chacun, du droit à la vie privée, etc., etc. Et donc tout ça est une discussion tout à fait normale, mais on sent aujourd'hui que les États voudraient aller, et la Commission européenne voudrait aller beaucoup plus vite, parce que, à nouveau, notamment on l'a vu récemment en France, dans l'attentat contre Samuel Paty à Conflans, que cette dimension en ligne avait été très très importante, et donc les États, et notamment la France en tête de peloton, qui veut vraiment aller plus vite. Merci. Et plus loin, et donc pour le Parlement c'est évidemment beaucoup plus difficile de résister aujourd'hui. On l'a vu dans d'autres dossiers.
Merci beaucoup.
Notamment le PNR, où c'était comme ça aussi.
Merci beaucoup Thomas Renard d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes chercheur à l'Institut Egmont à Bruxelles. Bonne journée.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
Il y a presque 5 ans maintenant, le monde s'engageait pour le climat en signant un accord qu'on avait qualifié d'historique lors de la COP21. Nous allons tenter de dresser un bilan des avancées en la matière.
Culture Monde, Florian Delorme.
Depuis les États-Unis, toujours aussi accro au pétrole, à la Chine qui aspire à jouer un rôle central dans la diplomatie climatique, en passant par la Russie ou encore l'Union européenne qui a de grandes ambitions en la matière, nous allons tenter de mesurer les progrès réalisés et le chemin qu'il reste à parcourir pour essayer d'éviter la catastrophe climatique.
Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h sur France Culture et sur franceculture.com.
Le virus de la Covid, je ne sais pas vraiment quand je le croise, mais je sais qui j'ai croisé. Alors, si je suis testé positif, je m'isole et je communique la liste des personnes avec qui j'ai été en contact à mon médecin traitant et à l'assurance maladie pour qu'ils puissent les alerter. En parallèle, j'alerte moi-même sans attendre mes collègues de travail, ma famille, mes amis. Plus vite ils seront informés, plus vite ils pourront s'isoler eux-mêmes et éviter d'infecter d'autres personnes. Oui. En identifiant les personnes à risque, j'aide à ralentir la propagation de l'épidémie.
Tester, alerter, protéger. Le bon choix, c'est de faire les trois. Ensemble, continuons l'effort. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Et nous vous devons la vérité sur les vaccins. Bonjour Guillaume Erner.
Bonjour Julie Gacon, oui. Et en fait, j'ai mené des recherches ce matin sur l'efficacité et surtout sur l'innocuité des vaccins anti-Covid. Des recherches en double aveugle, ou presque, hein, en double en tout cas, puisque je n'ai pas hésité à ouvrir deux journaux ce matin, Le Parisien et Libération. Alors pour Le Parisien, je vous résume la substance du papier. Ces vaccins, autant vous le dire, ça va pas du tout. C'est Eric Combes qui s'y colle, pas n'importe qui, hein, et il est chef de service à la Pitié à Paris. Il porte une blouse blanche sur la photo, il vous regarde d'un air pas content du tout, comme votre maman quand vous avez fait une bêtise. Eric Combes, c'est un peu le juge trévidique de la médecine. Vous savez, le juge trévidique, quand il vous regarde, vous avez toujours l'impression que c'est vous le terroriste, que vous faites de la taquilla, de la dissimulation. Donc Eric Combes, le professeur Combes, n'est pas content. Je n'ai jamais vu autant d'effets indésirables pour un vaccin. Il explique qu'il y a des jeunes qui ont eu la fièvre après l'injection. Certains ont même dû prendre un médicament contre la douleur. Bref, plutôt mourir du Covid que de se faire vacciner, explique-t-il en substance. Mais pour que les choses soient claires, je vous dois la vérité. J'ai poursuivi mes recherches, Julie, sur le vaccin. J'ai ouvert Libération. Alors là, c'est roule ma poule. Les premières études laissent entrevoir la vie en dose, explique-t-on dans l'IB. Vous avez compris le jeu de mots. C'est les mêmes études que celles qui rendaient Combes vraiment inquiet. Et cependant, dans l'IB, il est écrit que les effets indésirables sont peu nombreux, les vaccins pas chers, à 4$ vous en avez un, la fièvre modérée, il y a même un médecin sur la photo, mais là elle est en civil, sans blouse blanche, et elle se fait vacciner, preuve qu'il n'y a vraiment rien à craindre. De sa poche, des liasses de billets que lui a donné Pfizer. Non, je plaisante, c'est pas vrai. Alors évidemment, cette recherche approfondie sur les vaccins m'a rendu un peu perplexe, j'hésite beaucoup, j'hésite à me faire vacciner la régie, je les vois en régie, on pourrait les vacciner, je pourrais faire vacciner Julie Galcon en premier. Non, moi j'ai le temps parce que je l'ai eu le virus, Julie, mais vous...
Mais non,
vous l'avez pas eu. Vous l'avez pas eu assez. Puis vous avez très mauvaise mine. En attendant, je me dis que ça serait bien que l'on termine la campagne vaccinale avant Noël, parce que même en jauge de 6, c'est sûr qu'on va s'engueuler avec cette histoire de vaccin.